L'exposition des œuvres de Bertrand Dornier a été menée autour de quatre thèmes qui sont la cartographie et la ville, le matériau, le pli et le vide, et la dernière salle consacrée à la relation de l'écrivain avec l'artiste. Donc nous sommes un petit peu dans la dernière salle aujourd'hui, dans le prolongement de la dernière salle. Cette exposition réunit 90 œuvres. Ça représente le tiers de votre œuvre, Bertrand Dornier. Donc ça veut dire que tout n'est pas là, mais qu'il y a un choix qui a été fait, que de même qu'à cette table, tous les auteurs qui ont mené à bien des ouvrages en collaboration avec Bertrand Dornier ne sont pas bien sûr présents. Il y a un très grand nombre de personnages de notre fin de siècle qui ont collaboré à ce type d'ouvrage avec Bertrand Dornier. Bertrand Dornier et le Centre Pompidou ont choisi quatre personnages. On essaiera, grâce à ces quatre personnages, d'envisager tous les aspects de ce livre partagé. Je voudrais quand même rappeler un tout petit mot à tout seigneur, tout honneur, j'allais dire, sur votre œuvre Bertrand Dornier. Ça fait 40 ans que vous travaillez le cuivre comme graveur. Vous avez commencé comme graveur. Vous m'arrêtez si je dis des erreurs.
Non, j'arrête pas.
Que dans la gravure, ce qui vous a fasciné, c'était le relief de l'image, qu'à partir de là, vous êtes parti vers le papier découpé, qui vous a permis de construire des espaces syncopés, touffus, dynamiques, ce sont les mots que vous acceptez, pliés aussi, que souvent dans ces espaces, vous avez glissé des mots que vous ont prêtés des amis poètes, vous avez fabriqué ensuite des livres en papier découpé que vous leur avez tendus, et dans lesquels ils ont inscrit de leurs mains leurs propres mots. Alors on parlera ce soir d'hommage peut-être, de partage aussi, de voyage sans doute. Donc nous avons la joie d'accueillir autour de vous aujourd'hui Michel Butor, Michel Deguy, Bernard Noël et Yves Perret. C'est avec eux que nous allons un petit peu décortiquer l'ensemble de ces thèmes qu'on peut envisager autour de la question du livre d'artiste, qui est une grande question. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle ce soir qui sont des passionnés du livre d'artiste depuis un grand nombre d'années. Donc à la fois les auteurs qui sont à cette table et les personnalités qui sont dans le public auront certainement des compléments à apporter à cette discussion. Je vous présenterai les quatre hommes de lettres qui sont autour de nous ce soir, après bien sûr vous avoir présenté Bertrand Dornier, mais je crois que vous le connaissez, il est en photographie dans l'exposition pour ceux qui ne l'auraient pas encore rencontré. Je les présenterai non pas dans l'ordre alphabétique, mais dans l'ordre qui est celui dans lequel Bertrand Dornier les a rencontrés, si vous me permettez. Le premier étant Bernard Noël. Bernard Noël, dont Bertrand Dornier dit que c'est le poète. Bertrand, vous l'avez rencontré en 1971 au Havre, alors que Bernard Noël lisait des poèmes sur une scène de théâtre. Ça fait donc un certain nombre d'années. Bernard Noël, vous êtes écrivain. Parmi les derniers titres parus, on peut citer un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'écrire ?», qui est paru chez Paupières de Terre en 89, ou un livre comme « Les peintres du désir », paru chez Belfond en 92, ou encore un recueil de poèmes qui s'appelle La chute des temps, paru chez Gallimard en 93. Et puis, il y a un autre livre que je souhaiterais mentionner, qui est André Masson, La chair du regard, paru également chez Gallimard en 93. Je crois que si vous vous posez encore des questions sur la définition du mot dessin, en rentrant dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses qui deviennent lumineuses. On pourrait citer un très grand nombre d'autres ouvrages, je ne peux pas tout citer ce soir, mais il y a eu en 90, entre Bertrand Dornier et Bernard Noël, un livre qui s'appelle Bertrand Dornier ou le roman de papier. Et il y a également eu des livres consacrés à des artistes comme Géricault, Matisse, Christian Jacquard ou Vieira da Silva. Pardon pour tous ceux que j'oublie. Michel Butor, qui est à votre gauche, que Bertrand Dornier a rencontré il y a 20 ans, et Bertrand Dornier en dit qu'il est conteur, narrateur, qu'il est un puits de science universelle. Michel Butor, vous êtes écrivain. Bertrand Dornier m'a dit je ne parlerai pas, donc j'ai pris.
Un petit peu,
ah, rassurez-moi. Donc je me suis permis de prendre des notes et de prendre de l'avance en donnant des citations de Bertrand Dornier pour le mettre en appétit.
C'était gentil. Une roue de secours. Là.
Voilà. Donc vous êtes écrivain. Votre œuvre est au programme de l'agrégation de lettres modernes cette année, notamment une de vos œuvres qui s'appelle L'emploi du temps. Vous m'avez d'ailleurs dit il y a quelques minutes que l'an prochain vous serez également au programme de préparation de l'entrée dans les grandes écoles. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui vont être obligés de passer par Michel Butor dans les prochaines années. Parmi vos derniers titres parus, je cite « L'essai sur le roman » et « L'essai sur les modernes » paru chez Gallimard en 92. Un recueil également qui s'appelle « Paumé à travers l'ardoise » paru chez Fragment en 94, ou bien des livres plus anciens comme « Matière des rêves » paru chez Gallimard en 75, et des livres sur des artistes qui peuvent être aussi bien Mondrian que Alechinsky ou Giacometti. Michel de Guy, vous êtes, d'après Bertrand Dorny, le philosophe. Il vous connaît depuis plus de 10 ans. Vous êtes écrivain, vous dirigez la revue Poésie. Parmi les derniers titres que vous avez fait paraître, il y a « Aux heures d'affluence, poèmes et proses » et un autre livre qui s'appelle « À ce qui n'en finit pas », un livre très émouvant sur la disparition et sur l'absence, qui est paru chez Seuil en 1995. « Aux heures d'affluence, poèmes et proses » est également paru chez Seuil en 1993. Et puis on pourrait citer beaucoup d'autres ouvrages, comme « Choses de la poésie, affaires culturelles », qui est paru chez Hachette en 1986, ou bien « Le court traité de poétique », paru chez Seuil en 1988. Yves Perret, alors quel est le mot que Bertrand Dorny a lâché à votre propos? C'est le mot « l'intelligent ». Il vous connaît depuis 5 ans. Vous êtes écrivain également. Vous êtes conservateur de la bibliothèque Jacques Doucet. Et parmi les derniers titres de vous qui sont parus, on peut citer des poèmes et des récits, comme « Récits d'une simple saison », paru chez Mercure de France en 1995, ou bien le livre sur Fautrier, « Fautrier ou les outrages de l'impossible », paru chez Regard en 1990. Et puis d'autres textes un peu plus confidentiels peut-être sur des artistes comme Bram Van Velt ou Sima. Il y a notamment un texte qui s'appelle « Matière d'une transparence » qui est paru dans un petit livre confidentiel qu'avait présenté la Galerie Philippe il y a quelques années. Il y a énormément, je vous l'ai dit, d'autres grands auteurs qui auraient pu figurer à cette table. Je veux citer Eugène Guilvic, avec qui Bertrand Dorny a travaillé, ou Cioran, également Marc Le Bocht, qui nous fait l'amitié d'être au premier rang dans cette salle ce soir, ou quelqu'un comme Gilbert Lascaux. Une dernière précision avant de laisser la parole à tous ces grands personnages. Simplement un petit récapitulatif du passage du livre conventionnel, on pourrait dire, au livre d'artiste, comme vous pouvez le découvrir dans cette exposition, à travers Bertrand Dorny. Bertrand Dorny a été sollicité il y a environ 25 ans par un certain nombre d'éditeurs pour faire des images, pour accompagner des textes qui existaient déjà. C'était des éditeurs comme Guerprand ou Matarazzo qui vous avaient demandé de choisir un texte et de lui faire des images, de lui faire une beauté. Ensuite, vous êtes pris au jeu de cette distance entre le mot et l'image. Vous avez commencé à travailler avec des papiers imprimés, donc vous avez découpé des papiers sur lesquels il y avait des mots. Et puis, vous avez commencé à écrire pendant que quelqu'un écrivait. C'est notamment ce que vous avez fait avec André Marfin. Vous m'avez dit, il nous est arrivé dans certaines soirées de bistrot d'avoir des fabrications en parfaite osmose. Donc, la chose s'élaborait en même temps, image et mots. Vous voulez...
C'est tout à fait ça. C'est juste.
Et puis donc, on est arrivé à ces choses étranges que vous avez pu découvrir dans ces vitrines de l'exposition présente, à savoir des livres que vous avez conçus et que vous avez tendus avec des endroits blancs. Et c'est dans ces endroits blancs que vous avez demandé à des amis poètes et écrivains d'écrire des mots pour vos livres. Ce sont des livres que vous avez d'abord typographiés, puis que vous avez tamponnés et que finalement vous avez laissé...
C'est pas moi qui les ai typographiés. Hein.
Manuscrire.
Je les ai... Au début, je ne les ai pas typographiés. L'éditeur se chargeait de la typographie. Et par la suite, pris au jeu, je n'ai pas attendu que le livre soit épuisé pour déguster de nouveau le plaisir du faire avec le livre. Donc, j'ai abordé le problème du livre manuscrit en quémandant des textes sur des architectures, des imbrications de graphiques que j'avais fait. Et puis, venu après, le livre tamponné, quand mes auteurs en avaient un petit peu assez de recopier des textes ou de manuscrire des textes. Donc, le livre... typographié, ce que j'appelle le beau livre, est un livre plus souvent accompagné d'une gravure, mais pas de collage ou de pliage. C'est un livre beaucoup plus classique et dont le parcours en général, le texte, la gravure ou la vignette a accompagné le texte, tandis que les autres, j'ai sollicité des textes sur des architectures de livres, enfin livresques que j'ai...
En tout cas, vous faites une distinction entre ce que vous appelez le beau livre, avec une espèce de petite chose étrange dans le coin de la bouche, et puis ce livre manuscrit que vous dites être le livre avec lequel on est chez soi.
Il fallait aller plus loin que le beau livre, pour moi. Je trouve que l'accompagnement du mot, la découverte du mot, avait un sens un petit peu... même s'il était très élégant, un peu stéréotypé, on était arrivé à quelque chose de très beau. En fait, ma rencontre avec le mot, je ne lui demandais pas ce décor somptueux que la très belle typographie peut donner. Je n'ai pas... Et puis, c'est une question économique aussi. Je n'attendais pas que le... Comme je vous dis, que l'édition soit... Qu'est-ce que je pourrais dire, épuisé pour de nouveau m'intéresser à la rencontre du mot.
Bien, alors à présent, je vais me tourner vers nos quatre écrivains et donc vers Bernard Noël en premier lieu pour vous demander simplement qu'est-ce qu'on dit de plus ou qu'est-ce qu'on dit de moins dans un livre qu'on fait avec un artiste et peut-être en préliminaire, tout d'abord, pourquoi vous, homme de mots, vous vous intéressez aux hommes d'image. Peut-être simplement pour vous lancer la question, je vous citerai dans un livre que vous avez fait avec Bertrand Dornier en 89 et qui s'appelle « Au bord des doigts ». Vous avez écrit « La pensée n'est pas qu'un mouvement, elle est aussi l'espace où surgit sa venue ». Alors peut-être je peux vous poser la question comme ça.
Non, mais c'est vrai qu'en venant ici, je me demandais de quoi j'allais parler d'abord. Enfin, je comptais sur vous et sur les autres. Et parce que ce qui est difficile, c'est que, en effet, quand j'ai visité l'exposition de Bertrand, de l'artiste, je devrais dire, j'ai eu le sentiment que quelque chose de très particulier s'était passé là. Je l'ai eu aussi quand Bertrand récemment m'a proposé de rassembler tous les textes que j'avais fait avec lui pour leur donner un autre statut qui serait celui du livre ordinaire. Et je me suis aperçu que j'avais une espèce de répulsion devant le livre ordinaire, à l'idée de... Parce que... Alors je me demande pourquoi. Et il se peut que la phrase que vous venez de citer, d'ailleurs, où je remplacerai peut-être le mot « pensée » par le mot « poésie », la poésie n'est pas qu'un mouvement, elle est aussi l'espace dans lequel elle surgit. Et je crois que ce qui m'est très précieux dans ce travail avec Bertrand Dornier, c'est le fait justement qu'il me propose un espace. Si vous voulez, d'ordinaire, quand j'écris tout seul dans mon coin, l'opération première... Enfin, quand il s'agit de poèmes, en tout cas, l'opération première est d'essayer de jalonner dans ce lieu indéfini qu'est l'espace mental, de jalonner un territoire, parce qu'à partir du moment où ce territoire existe, une précipitation de mots devient possible sur ce territoire. Alors j'ai le sentiment qu'en travaillant avec Bertrand, au fond, chaque fois, il me propose un territoire qui est déjà là. C'est-à-dire que dans ses livres, comme on vient de vous l'expliquer, ses livres faits de pliage, de découpage, de collage, il laisse à tous les auteurs à qui il les propose, il laisse un espace. Et cet espace, donc, étant déjà là, est comme un territoire sur lequel... un territoire qui appelle quelque chose, qui appelle donc un surgissement verbal, disons. Alors ça m'est très précieux, et ça m'est si précieux qu'au fond, je n'ai pas envie que ce qui s'est passé là existe ailleurs. Et sans doute pour mes lecteurs éventuels, ce qui est là n'est pas forcément différent de ce qui est dans mes autres livres, mais pour moi c'est quand même très différent.
Michel Budor, je vous passe la parole. Pourquoi vous prenez de votre temps pour faire un livre avec un livre, pour faire un livre avec un artiste?
Ah ben parce que j'aime beaucoup ça. Et j'ai fait de nombreux livres avec de nombreux artistes et ça m'a toujours beaucoup apporté. Alors j'aime beaucoup travailler avec Bertrand Dornier parce que il me donne des idées. Il me propose ces livres qui sont déjà faits et il s'agit pour moi de savoir ce que je vais pouvoir mettre dedans. Donc au début je ne sais pas très bien et puis peu à peu je m'imprègne de ces couleurs, de ces formes, etc. Et je me dis voilà de quoi on pourrait parler à l'intérieur de cette chambre, si vous voulez, ou à l'intérieur de cette salle. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on parle à propos de ce qui est là, mais qu'on parle dans ce qui est là. Donc on peut ça vous fournit, il vous fournit un espace, et un espace qu'on est obligé de respecter, c'est-à-dire qu'il fournit une prosodie. Et un livre comme cela, eh bien, ce sont des formes fixes. C'est-à-dire, c'est l'équivalent aujourd'hui de ce qu'était pour les poètes classiques le sonnet ou la ballade. Donc, on a une forme qui est déjà là et qu'il s'agit de respecter. Il faut trouver la forme poétique qui va entrer, poétique ou en prose, hein, qui va entrer à l'intérieur de ces pages. Et c'est très difficile parce que si on fait un certain nombre de lignes, eh bien, s'il y a trop de lignes, ça n'entre plus. Et quand les livres sont manuscrits, selon l'exemplaire sur lequel on travaille, les choses se passent différemment. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Parce que autant le livre imprimé me fascine par son côté de répétition. Hein. L'invention de l'imprimerie est un moment absolument fondamental de l'histoire de l'Occident et donc de l'univers entier, parce que c'est l'invention du premier objet industriel moderne. On peut dire du premier objet industriel, c'est-à-dire du premier objet interchangeable. C'est avant l'imprimerie, chaque livre est un objet individuel, même si il y a beaucoup de livres qui sont faits avec le même texte. Mais le sentiment est que le livre est un individu et qu'il est très difficile de remplacer par conséquent. Tandis qu'avec l'imprimerie, eh bien, le livre est interchangeable. Si on n'a plus ces tragédies de Racine, on va dans la librairie et on achète des tragédies de Racine et on peut les acheter dans la même édition de poche. On peut jeter un livre et racheter exactement le même livre. Donc, le livre, c'est le livre imprimé, c'est le modèle de l'objet industriel dans lequel on est obligé d'avoir des éléments qui sont interchangeables. Si on a des automobiles, hein, l'automobile n'est possible que parce que on peut remplacer des pièces détachées. On peut avoir une pièce qui est exactement l'équivalent de celle qu'on avait. Tandis qu'avec des livres manuscrits, mais les livres manuscrits, ce n'est qu'un aspect de la production de Bertrand d'Orny ou de la production avec Bertrand d'Orny. Dans les livres manuscrits, on a une aventure extraordinaire. C'est que chacun des exemplaires peut être différent. C'est vrai d'ailleurs quand on écrit sur des gravures. Chacun des exemplaires peut être différent et le travail, cette obligation qu'on a d'entrer à l'intérieur de cet espace, de rester à l'intérieur de cet espace, cette obligation, eh bien, amène à varier le texte. Je prépare des brouillons, bien sûr. Et puis, j'ai un brouillon dans lequel j'ai à peu près ce qu'il faut pour remplir l'espace du livre. Si ce sont des textes poétiques, c'est plutôt en forme poétique, avec des petites lignes comme ça, inégales, comme on disait autrefois, c'est plus facile pour la mise en page. Mais si ce sont des textes en prose continue, c'est très difficile de savoir à quel moment le texte va s'arrêter au bas de la page. Alors ça, c'est fascinant parce que on écrit, et puis au moment même où on écrit, on s'aperçoit que la phrase doit être changée parce qu'on a trop de mots, et donc on est obligé, comme si on arrivait à la fin d'un vers, à la fin d'un alexandrin, on arrive au bout de la page, et donc il faut changer le texte. Et ça fait inventer des choses nouvelles, naturellement. Alors, dans la plupart des livres manuscrits avec Bertrand d'Orny, le texte est légèrement différent dans chaque exemplaire, c'est-à-dire il y a autant de variantes qu'il y a d'exemplaires. Et je me suis efforcé de systématiser cela, de faire ça d'une façon méthodique, c'est-à-dire même dans des textes de forme plus traditionnellement poétique, je me suis arrangé pour faire qu'il y ait des variantes dans chaque exemplaire. C'est-à-dire pour avoir tout le texte, eh bien, il faudrait avoir tous les exemplaires. Et ce travail avec des variantes, en fait, est pour moi fascinant parce que on retrouve Et on augmente, on célèbre le caractère d'objet unique que peut avoir le livre. Et donc ça va me donner des... Ça va m'obliger à avoir des idées. Vous voyez, non seulement des idées avant de me mettre à écrire, mais des idées au moment même où je suis en train de recopier. Et à mesure de... quand il y a 15 exemplaires, par exemple, heureusement, ce n'est pas très souvent, mais parce que c'est long de recopier 15 fois. Mais au 15e exemplaire, le texte est souvent très différent de celui qu'il était au premier exemplaire, parce que, eh bien, dans le processus, il y a des choses qui se sont sérieusement améliorées. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'a touché Bernard Noël. Dans ce processus... Le lieu dans lequel on écrit, hein, cette architecture de papier, eh bien, c'est quelque chose qui a une telle importance qu'il est très difficile de donner au texte une autre place que celle-là. Et d'autre part, on fait évidemment tout ce qu'on peut pour que l'objet auquel on appartient soit un objet aussi harmonieux que possible, c'est-à-dire qu'il y ait une liaison aussi forte que possible entre les différents éléments. Donc, lorsqu'on veut retirer le texte de cette matrice, parce que là, il s'agit vraiment d'une matrice, eh bien, lorsqu'on veut retirer le texte se trouve en quelque sorte orphelin. Et très souvent, pour le mettre dans un autre type de livre, il faut encore le changer. Il faut travailler sur une disposition différente et souvent, il faut présenter le texte autrement. À l'intérieur de cet ensemble, il y a des choses qui sont... D'abord, il y a des mots, quelquefois, qui sont à l'intérieur même de ces papiers collés. Donc, il y a des livres qui sont faits avec la matière des journaux. Donc, c'est plein de textes. On rajoute du texte en plus. Le texte manuscrit va jouer avec le texte qui est à l'intérieur des journaux. Évidemment, dans ces livres-là, à matière de journaux, dans chaque exemplaire, ce sont d'autres pages de journal qui sont introduites. Et puis, le découpage, de toute façon, n'est pas tout à fait le même. Donc, c'est une matière du même genre, mais évidemment, c'est un autre texte. Qui est là. Alors, le texte que nous écrivons va jouer non seulement avec les formes gravées, etc., mais avec les mots qui sont là-dedans. Lorsqu'on détache le texte, il y a donc des éléments absolument essentiels qui manquent et que très souvent, il faut remplacer par autre chose. Par exemple, par la présence d'autres éléments de texte qui vont jouer avec ce qui a été extrait, ce qui a été, disons, accouché depuis cette gestation à l'intérieur de cet espace. Alors, cet espace est donc souvent très complexe. Et il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans certains des livres faits par Bertrand Dorny. J'ai travaillé avec beaucoup d'autres artistes, mais il y a peu d'artistes chez qui j'ai trouvé des propositions de ce genre-là. Ce sont les parties cachées. C'est-à-dire qu'il y a des pages, souvent, à l'intérieur desquelles il y a des secrets. Il y a un morceau du collage qui se soulève, et donc on peut écrire par-dessous un texte qu'on ne voit pas tout de suite. Et pour voir ce texte, eh bien, pour trouver ce texte, il faut déjà une certaine habitude de la manipulation de l'objet. Et on se dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose dessous. Et on soulève, en effet, il y a tout un paquet de textes nouveaux.
Je vais peut-être vous empêcher de donner tous les secrets tout de suite, dès la première question, parce que c'est terrifiant pour ceux qui n'ont pas encore parlé. Si, voilà, vous, si vous livrez déjà toute la substantifique moelle.
Je m'arrête devant ces premiers secrets.
En plus, je sais que si je repose la question différemment, donc comme vous venez de l'expliquer, vous pouvez très bien recommencer avec une variante, le texte qu'on vient d'entendre. Je vais me tourner vers Michel Deguy pour lui demander ce qui l'intéresse dans cette collaboration avec Bertrand Dorny. Pourquoi vous allez vers ces, ces livres d'images pour en faire des livres de mots.
C'est dommage qu'on ait arrêté Michel. Je vais parler beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire deux, trois petites choses. Pour commencer, à caractère un peu autobio, et puis ensuite, peut-être déjà rebondir sur ce qui a été dit, enchaîner. Simplement, disons, au moment où Bertrand me fait la première proposition, je ne suis pas complètement surpris, puisque non seulement il y a une grande tradition en arrière de l'alliage du pictural et du poétique, pour dire comme ça, mais en plus, dans ma propre expérience, à laquelle je fais une brève allusion, il y a des années de jeu avec des artistes, en particulier des peintres, et la fabrication d'une petite revue, la revue de poésie, dans laquelle un numéro ou deux recueillait des éléments en plastique, et même, qu'on pourrait appeler même à la limite sculpturaux, feuilles de cuivre très minces qu'on pouvait déplier comme une feuille. Enfin, l'ambiance du jeu et la proposition d'association, de coopération avec l'artiste est une chose ancienne et toujours aussi neuve, toujours aussi stimulante, pour employer l'adjectif américain favori. Et d'entrée de jeu, je dirais que cette perspective de coopération m'a infiniment plu. Sans parler, pour ne pas y faire ici d'allusion, sans parler du caractère de sympathie et d'échange amical qui compte beaucoup entre les uns et les autres, et Bertrand, bien entendu, fait que la relation a été possible, puis souhaitable, etc. Bon, alors, à la différence de certains, et on voit donc que quelques différences commencent à s'ébaucher, moi, il m'arrive de reprendre certains textes, certains poèmes, par exemple, écrits à l'occasion de la proposition faite par Bertrand. Ça, j'insiste beaucoup sur le thème de proposition. Il y a tout un aspect du rapport du poétique avec la circonstance, tout un aspect important de la commande sans laquelle l'auteur ne prendrait pas l'initiative. Il y a tout un aspect de réponse, il y a un aspect de donnant-donnant, il y a un aspect de réciprocité profonde qui est fondamental. Et en l'absence de commande émanant de l'hôtel de ville ou du prince de X, cette commande qu'exerce un artiste sur d'autres est une chose très importante. Et la circonstance, au sens large, celle où on va improviser, je pense que ça a aussi un rapport avec l'improvisation. C'est très difficile pour un écrivain et un poète d'improviser. Si on demande dans une circonstance X, par exemple ici, si on demandait tout à coup à quelqu'un d'improviser quelque chose à caractère poétique, ce serait extrêmement difficile. Il faut donc un certain nombre de circonstances qui favorisent cette quasi-improvisation. Et la proposition d'ornique, je ne sais pas quel est l'adjectif sur Bertrand, d'ornien. Bernard, tu as fait un adjectif. Non, la proposition est une proposition généreuse et intéressante. Alors, il m'arrive de reprendre quelques-uns des textes faits pour ces guillemets petits livres, qui ne sont pas forcément petits, et de me les rapproprier. Donc ça, c'est une différence avec ce qu'a dit Bernard Noël tout à l'heure. De les prendre dans un autre ensemble, de les incorporer. Ils ont été donnés de cette façon-là, ils peuvent, dans certaines conditions, rentrer dans une autre série. Parfois même, il m'est arrivé de reprendre comme titre de livre, par exemple celui-ci, Aux heures d'affluence, à partir d'un livre fait avec Bertrand. Et on pourrait multiplier les exemples. Par rapport à ce qu'a dit Michel Butor, évidemment, il y a une différence qui me concerne, c'est que je ne sens pas que la forme, au sens de l'encadrement, au sens de la marge intérieure, si on peut l'appeler comme ça, soit contraignante comme l'est une forme fixe dans la poétique. Bien entendu, c'est une forme, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Disons, la forme, finalement, c'est la quadrature, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun au pictural et au poétique, c'est le rectangle, c'est-à-dire le tableau et la page. Alors, la forme prise dans ce sens très général, comme simplement, je dirais, la forme est dans la plus grande généralité, est ce qui donne qu'il y ait de la peinture ou ce qui donne qu'il y ait du poème. Alors, cette quadrature-là, cette forme dans le sens très général est donnante, mais il n'y a pas, et la contrainte ne s'exerce pas comme pour, donc c'est une différence avec ce qu'a dit Michel, hein, comme pour la forme sonnet ou la forme ballade. Elle ne va pas jusque-là, c'est un encadrement. Bon, ben voilà quelques éléments de différenciation. Peut-être on a effleuré une chose au début qu'il faudra reprendre, c'était l'aspect économique. Le beau livre, après tout, c'est un livre coté, un livre sur le marché. Je ne sais pas s'il y avait... Enfin, oui, c'est une chose très importante, parce que quelle espèce d'objet... Voici le dernier petit livret que j'ai fait avec Bertrand, mais ça, ou plutôt que Bertrand a fait avec moi, ou l'inverse, enfin les deux ensemble. Et alors, il a ceci de particulier, c'est que pour une fois, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est pas Bertrand qui fait la proposition, c'est moi qui lui ai donné un texte pour un tiers, un ami poète qui venait de se marier à New York et à qui on voulait faire un cadeau. Alors, je lui ai dit, voilà la chose que j'ai écrite à New York, qu'est-ce que tu en fais? Il en fait ça. Alors, cet objet, qu'est-ce que c'est du point de vue économique, si on en parle? Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est intéressant, évidemment. Tandis que celui qu'on a fait ensemble, qui a été fait par les soins de Dutroux, est supposé avoir une certaine valeur. Donc il y a, je veux dire, une valeur, une affaire de cote. En tant qu'objet, qu'est-ce que c'est? Le public va dans dans l'exposition. Quel rapport il a avec l'objet? C'est un objet entre nous. Bertrand est un des seuls à avoir lu les textes qu'on a écrits là-dedans. Qu'est-ce que le public derrière une vitrine? Au fond, c'est un... Le livre cache l'écriture. Non, je veux dire, il y a une affaire entre nous. Alors, quel est le rapport au public? Peut-être tout à l'heure, on va entendre parler de ça. C'est un côté non seulement hors commerce, mais extrêmement privé. Pas toujours, bien sûr. Puisque parfois, il y a des livres qui sont justement des objets qui, en tant que beaux livres, ont une valeur aussi sur le marché, etc. Enfin, j'amorce cette affaire-là. Voilà.
On va passer le micro à Yves Perret.
Oui, je vais essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas moi qui suis intelligent, mais Bertrand Dorny. C'est-à-dire, comme tout le monde l'a dit ici, il fait à quelques-uns, et il m'a donc fait à un moment donné une proposition de livre, et cette proposition venait à un moment qui était tout à fait intéressant dans mon propre parcours, et lui, je ne sais pas par quelle intuition, il a pu soupçonner sans doute une préscience quelconque. Au fond, la démarche de Bertrand Dorny et notre présence ici, c'est-à-dire nous sommes des hommes de mots et nous venons dans des livres, jusque-là ça n'a rien de curieux, mais dans des livres avec des artistes, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'après tout, lorsque l'on écrit, on est d'abord seul avec soi, avec des papiers plus ou moins divers et variés, et ensuite ces livres, ces papiers, du moins, deviennent des livres et sont édités. A priori, sous une forme, je dirais, banale, ordinaire, ça nous satisfait en partie seulement, sûrement. On ne les relit pas, mais on a une sorte de satisfaction, ça existe un peu comme cela. Il y avait aussi de ma part, et là je dois faire une petite confidence, c'est que longtemps, outre l'admiration que je portais à la peinture elle-même ou à la sculpture, enfin ce qu'on appelle les choses plastiques, il y avait aussi une fascination pour une forme du livre dont elle pourrait répondre à ce que Michel vient de dire un petit peu, c'est-à-dire peut-être un peu coté, comme tu vas un peu coté, un peu un livre de valeur. Mais il y avait une forme française du livre, ou suisse, ou d'autres pays, ou tout le reste, qui me fascinait assez, et j'ai fait quelques livres comme ça avec des peintres. Au bout d'un moment, une question venait, c'est que ce type de livre, très beau le plus souvent, n'était peut-être pas totalement satisfaisant non plus. On pouvait toujours s'en satisfaire, de par la beauté qui se répétait dans ce type de livre. Peut-être qu'à force, une invention n'y était pas, ou n'y était plus assez. Je ne sais pas comment il faut le dire. Et il y avait besoin, si tant est qu'un livre entre un homme qui écrit et quelqu'un qui s'exprime plastiquement devait avoir lieu, il devait y avoir invention. Et c'est une question qui déborde, au fond, notre alliance avec Bertrand. C'est-à-dire, c'est une question aujourd'hui qu'on doit se poser, et souvent on diffère ou on renonce à des projets qu'on nous propose, parce qu'on sait qu'il faudrait inventer quelque chose. Est-on capable de le faire? Notre partenaire l'est-il? L'éditeur éventuel l'est-il? C'est une question. Au moment, moi-même, je réfléchis beaucoup à cela, en un sens, étant heureux d'avoir fait quelques livres, je dirais, où le classicisme se brisait tout en ne se brisant pas, je cherchais quelque chose quand Bertrand m'a fait la première proposition. Et donc là, j'ai aimé quelque chose qui pouvait me permettre, peut-être parce que c'était écrit à la main, peut-être parce qu'on pouvait changer d'un livre à l'autre, comme l'a dit Michel Butor, éventuellement, ce qu'on n'était pas non plus obligé de faire, il y avait un jeu qui était plus immédiat, évidemment, que dans les autres livres, qui n'étaient pas dénués de jeu non plus. Parce que l'alliance de deux hommes suppose toujours une connivence et un vrai jeu, faute de quoi c'est rien du tout. Mais le jeu intervenu dans les autres livres en un premier temps et très vite dans la beauté même de la mise à l'être ou à la réalité, ce jeu nous échappait. Tandis que là, on avait l'impression justement d'aller jusqu'au bout de ce jeu, de ne pas en sortir. Alors voilà un peu l'intérêt que j'ai trouvé dans cette proposition d'une grande générosité à laquelle on répond soi-même, soit en écrivant au fond un texte qui ne préexiste en rien, c'est-à-dire que la structure vivante que propose Bertrand Dorny fait naître d'une manière pas forcément induite, mais il y a une espèce de rencontre bizarre. Ça a été le cas pour l'un des livres. Pour un autre, je me souviens, il m'a fait la proposition alors que deux jours auparavant, j'avais écrit un poème sur une table de restaurant en attendant un ami. Et je me suis dit, c'est curieux, la structure qu'il me propose est assez proche du poème que j'ai écrit. Et donc, là, j'ai pris le poème. Voilà en fait ce que je trouve d'intéressant, c'est que par ce côté bricolage qu'il nous impose à nous, ce bricolage que nous n'avons au fond que dans le premier temps de l'écriture sur nos cahiers ou sur nos feuilles, ici nous l'avons jusque dans le livre. Or ce jeu et ce bricolage, ce collage aussi qu'on peut, après tout il nous laisse des espaces blancs dans le livre Bertrand Dorny, mais on peut écrire aussi sur les plages colorées, c'est pas interdit, c'est même sûrement conseillé. On peut le faire, en tout cas on a loisir de faire ce que l'on veut. Dans un exemplaire, on ne peut écrire que sur les éléments blancs qui sont, semble-t-il, réservés à l'écriture. Dans un autre, pourquoi pas, on peut déborder. Et là, il y a quelque chose qui est un peu unique. De ce fait, chaque exemplaire est unique et dans un jeu de répétition à 5 ou 7. Voilà.
Il y a Bertrand Dorny qui me dit tu me passes la parole après, alors je vais passer la parole, mais ça tombe bien parce que je voulais vous la passer, parce que là on sait donc quand vous tendez le livre, on commence un petit peu à sentir pourquoi les uns et les autres vous disent oui. Alors peut-être on va vous demander pourquoi vous tendez le livre maintenant. Simplement je voulais vous citer parce que vous m'avez dit une chose qui peut peut-être nous faire bouger. Est-ce que je voulais vous poser la question précise, c'était avez-vous besoin d'eux pour avancer? Est-ce que c'est pour vous rassurer ou est-ce que c'est pour vous oublier? Parce que quand on a visité l'exposition ensemble, vous m'avez dit ce qui est bien, c'est qu'on se noie dans l'autre.
Oui, ça, je vais peut-être y revenir après, mais ce que je voulais dire, c'est que la collaboration que j'ai eue avec les gens de Plume, c'est qu'elle m'a permis de réapprendre à lire. Et ça a été pour moi, comme adulte, je ne sais pas si c'est de la si je me suis approprié le texte qui m'était confié, mais la lecture qui a été un jeu, d'abord un exercice difficile quand j'étais jeune, pour des raisons, j'étais dyslexique et c'était pas évident pour moi de lire. Et je suis toujours dyslexique, mais grâce au texte que j'ai pu travailler véritablement de près, qui n'était plus une lecture fastidieuse, puisque j'avais le temps de disséquer les mots, de composer même les phrases qui m'étaient confiées, j'ai réellement réappris à lire, et pour ma plus grande joie. Voilà ce que je voulais dire. Et mes amis écrivains, je leur dois au moins ça, c'est que la passion du mot qui m'a été confiée, voilà, ils m'ont réappris à lire. Et c'était très important pour moi.
À propos de se noyer.
Oui, c'est normal. Si on a réappris à lire sur des textes, bien, il se crée cette espèce d'identification avec le texte confié, c'est évident.
Mais est-ce que les textes qui sont écrits donnent du sens à vos images ?
Ben, ça va dans les deux sens. Et dans le sens... Je pense que, contrairement à ce que l'on pense, j'ai travaillé, oui, avec, disons, 6 ou 7 écrivains pendant une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. Et je pense que eux, comme moi, ont évolué, peut-être moi en fonction des textes qui m'étaient donnés, et peut-être eux en fonction de la forme que je leur laissais sur la page blanche du livre, de l'architecture livresque que je proposais. Je ne sais pas ça, mais c'est possible.
Je vais me retourner vers Bernard Noël parce qu'on a évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises la question d'intimité dans ce livre, de l'aspect plus secret. Et il y a une question qui est très liée à celle-ci, c'est celle du toucher. Alors je reprends un des livres que vous avez fait avec Bertrand et dans lequel vous avez, c'était en 92, dans Matière de la nuit, vous avez noté « Un œil s'ouvre au bout de chaque doigt ». Alors est-ce que ces images que vous tend Bertrand Dorny, leur aspect matière peut servir, ben, il y a l'espace dont Michel Buton nous a parlé tout à l'heure, le cadre, mais est-ce que la matière aussi peut faire manivelle?
Je crois que c'est pas exactement ça. En écoutant ce que disaient mes camarades, je me disais qu'au fond, nous sommes des hommes de mots et Bertrand nous transforme en hommes de mains. Rarement, l'écrivain a conscience. Enfin, il me semble de façon aussi aiguë du trajet qu'accomplit sa main sur cette surface que moi je ressens en effet plutôt comme Michel Butor, comme une sorte de forme fixe qui est proposée par l'artiste et comment dire, qui commande à la fois l'expression et à la fois le sentiment physique de cette expression. Je veux dire que le trajet... Il y a une chose au fond à laquelle je pensais, et c'était finalement la seule chose que je voulais dire, c'est que en travaillant dans l'espace proposé par Bertrand Dorny, j'ai découvert le lapsus manuel. Lapsus manuel, c'est une chose, quand on écrit, ordinairement, si je puis dire, bon, c'est une rature, mais ça compte pas. Enfin, ça compte que peu. Tandis que quand on est en train de recopier un texte à 5 ou 6 exemplaires, il se produit non seulement ce que disait Michel Butor, c'est-à-dire des corrections éventuellement, parce que tout à coup on a écrit un peu plus gros, donc ça rentre plus, donc il faut repenser le texte, mais il se produit aussi des lapsus de la main, peut-être parce qu'elle est distraite, donc la main se met à exister aussi. Et ce lapsus manuel devient, parce qu'on ne peut pas le reprendre, on ne peut pas faire des ratures sur cet exemplaire unique qu'on a entre les mains. Donc ça rend inventif forcément et ça oblige à reprendre en compte une sorte d'événement verbal, mais qui lui n'est pas verbal, qui est venu de la graphie.
Alors à propos de rature, on peut peut-être revenir vers les dissimulations de Michel Butor.
Mais je voudrais beaucoup appuyer sur ce que dit Bernard Noël. C'est-à-dire Bertrand Dorny nous dit que ses livres lui ont appris à lire, mais ces livres nous apprennent à écrire, pas à écrire au sens des théoriciens de la littérature, etc. Non, au sens d'un enfant qui apprend à écrire à l'école primaire. Et ça, c'est quelque chose de très très important, parce que le trajet de l'encre ou du crayon devient quelque chose d'absolument vital. Et par conséquent, l'écriture se révèle comme ce qu'elle a toujours été, mais ce qui était profondément caché dans notre culture, l'écriture se révèle comme étant un dessin d'un type spécial. Et donc, c'est extrêmement important, parce que parce que quand on intervient dans cette œuvre d'art, non seulement ce qu'on dit est important, mais on fait des formes, hein, on met des lignes à l'intérieur qui vont jouer avec les autres lignes. Et les formes qu'on utilise, eh bien, on redevient conscient de ce qu'elles sont. Alors, ça, c'est un, quelque chose qui est absolument essentiel. On reprend, donc, l'écrivain reprend conscience de l'aspect physique de l'écriture. Ce n'est pas quelque chose que l'écriture, ça n'est pas quelque chose qui concerne seulement la tête. L'écriture, c'est un geste et qu'on a appris un certain nombre de gestes dans sa main et on est plus ou moins capable de contrôler ces gestes. Dans l'écriture qu'on a habituellement, eh bien, on a en général une écriture extrêmement cursive qui est très difficile à déchiffrer, même souvent pour soi-même. On a du mal à relire ses brouillons. Tandis que dans ce cas-là, on va s'efforcer de faire des mots lisibles. Des lignes mal mises vont détruire l'œuvre. Hein, ce serait comme des gribouillis sur une peinture. Des lignes bien mises, au contraire, vont ajouter quelque chose à cette œuvre-là. Alors ça c'est quelque chose qui est essentiel, c'est que on se met non seulement à travailler avec le peintre ou le plasticien, mais on devient soi-même, dans une petite mesure, bien sûr, dans une mesure d'apprenti en quelque sorte, mais on devient soi-même un plasticien. Alors ça c'est une expérience qui est pour moi absolument essentielle. Et j'ai été très frappé en regardant l'exposition tout à l'heure de l'évolution des écritures des écrivains à l'intérieur de leur travail. Dans la suite des années, leur écriture a changé. C'est toujours la même écriture, mais la conscience qu'ils en ont est différente. Et il y a une évolution dans la mise en page et de la part de l'écrivain, et ça c'est quelque chose de très sensible, on voit, ça devient de plus en plus beau, leur écriture.
Au siècle du Macintosh, c'est pas très réactionnaire, ou du moins très nostalgique, cette dimension très monacale
de... Pas du tout. Les deux choses sont profondément liées. C'est parce que nous écrivons avec des machines à écrire, et maintenant avec des machines à écrire perfectionnées que sont les machines à traitement de texte, que nous avons tellement besoin de retrouver ce côté physique de l'ancienne écriture. Remarquez, à l'intérieur même du travail sur ordinateur, il y a un côté physique extrêmement important, c'est-à-dire le clavier d'une machine à écrire ou le clavier d'une machine à traitement de texte, exactement la même chose, c'est comme le clavier d'un piano. Et par conséquent, il y a un contact physique absolument essentiel avec ce clavier. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des musiciens aussi. Et je sais ce que c'est que le contact des doigts avec le clavier d'un piano. Eh bien, si merveilleux que soit le contact des doigts d'un pianiste avec son Steinway, eh bien, ce n'est pas plus merveilleux que le contact des doigts d'un écrivain avec son ordinateur. De même que les brouillons de Dostoïevski ou de Flaubert nous donnent des gribouillis qui dépassent les plus beaux gribouillis de Jackson Pollock ou d'autres. Il y a donc ce caractère plastique de l'écriture, alors redevient conscient. Il y a des cultures dans lesquelles on a toujours été conscient de cela. Mais dans notre culture, il y a eu, surtout à partir du 19e siècle, un tabou qui a fait que l'écriture et la peinture, c'est deux domaines qui sont complètement différents, etc. Eh bien, le travail que nous faisons à l'intérieur de ces livres-là prouve que c'est faux. Prouve. Et donc, cela nous permet de retrouver une certaine unité entre nos yeux, notre tête et notre main. Alors, la main de l'écrivain devient quelque chose d'aussi extraordinaire que la main du peintre. Et on peut photographier des mains de peintre, hein, c'est magnifique. On peut photographier des mains d'écrivain, on peut filmer la main du peintre, on peut aussi filmer la main de l'écrivain. Et dans les deux cas, nous avons un ballet extraordinaire. Dans les deux cas, c'est de la danse. Et c'est une danse à plusieurs, bien sûr. La danse solitaire, c'est un peu insuffisant.
Alors Michel Deguier, est-ce que vous vous sentez très plastique et très physique quand vous travaillez pour Bertrand Dorny ?
Non, je ne sais pas si je vais répondre, parce que je risquerais de faire tomber l'enthousiasme qui nous soulève en écoutant Michel Butard. Non, par conséquent, je passe mon tour pour le moment.
Yves Perret, vous voulez intervenir à propos de...
Nous voici calligraphe, voici devenant peintre. Mais c'est, j'approuve entièrement ce que dit Michel Butard, sauf que c'est un peu excessif, quoi, disons. Entre le Steinway et le Word 4, il y a peut-être des...
Vous n'avez pas un ordinateur avec des touches en ivoire, vous,
non,
peut-être?
Non, en plus, moi, je suis un incurable. J'écris à la main, uniquement à la main, toujours à la main, sur carnet, illisible. J'arrive pas à voir. Mais enfin, on ne va pas entrer dans ces détails.
Alors, est-ce qu'Yves Perret veut bien nous parler de sensualité ou...
Je crois, enfin bon, je vais pas me dérober. Non, je crois pas. J'essaie de réfléchir à nouveau au livre avec Dorny, et en fait, je crois que toute écriture, tout ce que décrit Michel Butard est sans doute vrai de ses livres, mais d'une certaine manière, lorsqu'on écrit seul, on est justement, enfin pour ceux qui écrivent à la main, bien sûr, hein, dont je fais partie, comme toi. Des gens qui écrivent à la main éprouvent au fond une espèce de difficulté ou de facilité, de plaisir, de toutes sortes de choses qui sont très... Tout ça est très physique, tout ça au fond nous rapproche et nous éloigne à la fois du moment de l'enfance que vous évoquiez. À ceci près que vous avez parfaitement raison de dire que cet effort de copie et de copie propre que l'on doit faire sur ces exemplaires, là, évidemment, il nous rapproche d'un état qu'on avait oublié, comme Bernard l'a dit aussi. On n'est pas, lorsqu'on est soit en ville, soit à la campagne, lorsqu'on est en train d'écrire n'importe où, on est dans une capacité qui n'est pas si éloignée, en un sens, de celle de l'enfance, mais c'est métaphorique. Lorsqu'on doit faire ce travail de recopie, ce n'est plus métaphorique du tout, on est comme des enfants. Surtout les premières fois. Et on prend peut-être simplement un peu plus de liberté même que n'en prendraient les enfants. Mais ce que je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il y a un paradoxe du plaisir pris à ce type de livre. Au fond, je pense que l'écrivain admet volontiers que ces livres, il y a une sorte de jouissance aussi à être dépossédé de ces textes, à ce que ces textes lui soient arrachés par le fait de l'imprimerie même. C'est-à-dire on abandonne tout le plaisir ou la difficulté, le contraire du plaisir éventuellement, qui était au moment de l'écriture, lorsqu'on était sur des carnets, sur des feuilles. L'imprimerie nous en dépossède, et de cette dépossession, nous ne ressentons pas du tout quelque chose qui nous fait du mal, mais au contraire un soulagement, un plaisir. Ce qui m'étonne beaucoup, au fond, dans ces livres avec Bertrand Dorny, c'est que restant à la main, si je puis dire, on éprouve malgré tout du plaisir. Alors qu'habituellement, c'est lorsque les choses nous sont arrachées, nous sont prises, nous sont ravies, qu'on est nous-mêmes dans un état de plus grand contentement. L'autre question, au fond, que poseraient ces livres, je pense pas, c'est vrai que la peinture et l'écriture sont des positions en position d'opposition le plus souvent dans les sociétés, du moins dans notre société occidentale. Il n'est non moins vrai que très souvent, il y a eu un rêve des uns et des autres, au fond, d'essayer d'obtenir ce que l'autre a. Pour un écrivain qui, certes, est sensible, sensuel, tout ce que l'on veut, la langue, c'est quelque chose, c'est une musique, c'est un timbre, bon... Mais en même temps, le mot a une part abstraite aussi. Les mots, la grammaire, la syntaxe, il y a une part d'abstraction. Et on imagine, peut-être un peu naïvement, mais en fait, on imagine que le plasticien, le peintre, le sculpteur est plus près de la réalité et que la langue nous éloignerait de cette réalité de par certaines de ses structures. Je pense que de la même manière... le peintre ou le créateur plastique rêve un peu des pouvoirs qui sont celui ou qui le prête, évidemment. Pas qu'ils sont, ce ne sont pas des pouvoirs, mais ils les prêtent, ceux de l'écrivain. Bon, je pense qu'il y a comme ça un regard quand même des uns vers les autres qui a toujours eu lieu, qui s'est incarné. Il y a une fascination réciproque, une fascination par la différence, parce que ce qu'on ne peut pas soi-même. On est toujours fasciné par ce qu'on ne peut pas. Je ne dis pas par là que nous voudrions être des peintres, vraisemblablement pas, ou peut-être si, mais en tout cas, on n'en est pas, et tout travail de peinture, à ce titre, nous fascine.
Je vais peut-être me retourner vers Michel Deguy pour partir dans cette autre direction, qui n'est pas celle de la matière, mais celle du miroir, là, peut-être. Il y a des éléments que vous voudriez apporter, c'est ce rapport qu'il y a entre...
Non, je pense, pour rebondir un peu, qu'effectivement le rapport d'imitation, d'émulation, de rivalité, comme il a été appelé depuis le fond des âges par le ut pictura, etc., est un rapport que vient de signaler Yves Perret. C'est donc un rapport où oui, la jalousie, l'envie, et par conséquent l'imitation dans tout ce qu'elle a de fécond joue un rôle très important, et se priver au fond d'une certaine manière un art ou un artiste, disons, se prive des moyens. La question serait, comment se prive-t-il des moyens de l'autre pour entrer ainsi dans un rapport de qu'on peut appeler de comparaison ou d'émulation avec lui. Il est évident que le plasticien en tant que tel, c'est-à-dire s'il n'était que cela, serait privé du sens, en tous les cas privé des significations au sens linguistique, et donc il y a en lui un désir de faire quelque chose comme le langage articulé. Et il y a chez chacun d'entre nous une jalousie féroce à l'égard du musicien, qui lui aussi est privé de la signification, mais peut-être pas privé du sens. Enfin, là, il faudrait élaborer davantage. Et que c'est cette vicariance générale, c'est-à-dire cette moyen d'agir avec ce qui fait défaut à l'autre, qui est un fédérateur ou un catalyseur, ou enfin qui cimente en profondeur ces alliages ou ces alliances, en même temps que la sympathie humaine à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, du point de vue psychologique, les fait vivre.
Alors est-ce qu'on parle plutôt de miroir ou de complémentarité?
Ah, c'est à moi la question. Non, ben on passe.
C'est général, c'est de miroir, de complémentarité ou de malentendu. Voilà la question complète.
Moi, je voudrais juste dire que l'écriture est un geste minuscule et que le plaisir physique est évidemment à l'échelle de ce geste minuscule. Alors, j'étais très enthousiasmé par ce que disait Michel Butor du plaisir extraordinaire de la calligraphie, parce qu'il y a toujours peut-être chez chacun de nous cette utopie de trouver l'équivalent d'un geste plastique. Il me semble que le geste d'écriture est justement trop réduit pour qu'on y trouve ce plaisir plastique. Et que, justement, dans l'espace proposé par Bertrand d'Orny dans ses livres, c'est plutôt la conscience du geste. Donc, mais ce geste reste très réduit. Moi, j'ai été un jour rendu très jaloux par une phrase que m'avait dit Zhao Bouki, en disant qu'en Chine, disait-il, tu sais, apprendre à écrire ou apprendre à dessiner, c'est la même chose. J'étais très jaloux de cette situation. Je crois qu'il serait important d'en revenir à un des points qu'a abordé Michel Deguy tout à l'heure, quant au statut de cet objet. Parce que, en effet, le livre, je ne sais pas comment l'appeler, le livre d'artiste ou le livre illustré classique, c'est un livre, enfin, en général, très bien imprimé, dans un format plus grand qu'à l'ordinaire, dans lequel on glisse, enfin, dans lequel on imprime également des gravures ou des lithographies. Et récemment, je ne sais plus qui me parlait du grand moment du livre d'artiste. Et par ce grand moment, il entendait les années 50-60 avec les livres de Picasso et Reverdy, de Braque et de je ne sais plus qui, de Char peut-être et quelques autres. Or, Braque n'a jamais de sa vie fait une gravure, sauf peut-être une seule. Alors, je veux dire que immédiatement, le statut de ce livre dit précieux, cher, coté, comme disait Michel, c'est en fait un faux livre. C'est un livre fabriqué pour être précieux, dans lequel on met face à face des textes et des objets précieux qui sont des lithographies ou des gravures, mais qui au fond pourraient exister indépendamment. Alors, ce qui me semble nouveau dans la proposition de Bertrand Dorny, c'est justement un ouvrage fait à la main. Et fait à la main aussi bien par lui que par tamponné, etc. Alors là, il me semble qu'il y a une dimension nouvelle. Enfin, Bertrand n'est peut-être pas le seul à faire ce genre d'ouvrage, mais c'est celui, me semble-t-il, qu'il a fait de manière la plus poussée, la plus diverse et la plus nombreuse aussi. Donc, je crois que c'est le statut de ce livre-là qu'il faudrait peut-être essayer de définir.
J'allais dire, oui, Annie Meyer qui a concocté cette série de débats, je crois, à deux autres débats qui auront lieu dans le courant de la semaine également. Et Annie Meyer, d'ailleurs, qui m'avait bien recommandé dans la dernière demi-heure de ne pas oublier de me tourner vers le public, parce qu'il y a certainement dans le public des compléments à porter, des objections à porter, puis surtout des questions à poser, parce qu'une des, j'allais dire, un des miracles qui tourne autour de ces livres-objets, c'est que Bertrand Dorny réussit quand même à réunir à la même table Michel Butor, Bernard Noël, Michel Deguy, Yves Perret. Donc j'allais dire, profitez-en si vous avez des questions, ou peut-être également, parmi vous, il y a des auteurs. Il y a Marc Lebotte au premier rang qui a travaillé avec Bertrand Dorny sur des livres. Il y a Georges Coppel qui est dans le fond de la salle, qui a fait aussi des livres avec Bertrand Dorny. Bertrand, vous connaissez mieux le public que moi, Jocelyne François. Donc à vous aussi d'apporter vos mots et vos questions vers ces auteurs et vers Bertrand Dorny, puisqu'il parle.
Propose pour commenter sur ce que disait Michel Butor, puisque je dessine et je suis sensible au déplacement d'une plume. Il y a une grande différence entre écrire, qui est une forme de graphologie, et dessiner, qui est graphique. Et ce que l'écriture ne peut pas réussir à faire, c'est de sculpter et définir l'espace. L'écriture se passe sur un plan plat. Et le dessin, la ligne, évoque une dimension de l'espace qui est impossible par l'écriture.
Alors est-ce que les écrivains sont d'accord avec cette définition plate de l'écriture?
C'est comme si on grave dans un carreau de fenêtre. Ça existe et l'air passe à travers. Tandis que le dessin définit la présence de force et de forme qui se rencontrent le long de la lisière de la ligne. Ça n'existe pas dans l'écriture. Il y a certaines formes d'écriture, c'est-à-dire la calligraphie, qui participent dans une conception visuelle qu'on assimile à une image comme dans la calligraphie chinoise ou l'écriture arabe. Mais ça, c'est une vocation d'écriture qui s'approche d'une conception décorative. Je veux dire, tout se passe sur une surface plane. Si on veut évoquer l'espace tel la tradition occidentale, cette forme d'écriture n'a pas sa place. Et quand j'avais collaboré, et j'espère peut-être continuer avec Michel Butor, le grand problème, c'était comment réconcilier sur une même surface, une même page, deux interprétations de l'espace qui sont de nature différente. Parce que l'écriture a une personnalité, à part les mots, c'est sa façon de former des lettres, l'agencement. Ça crée des rythmes, une présence d'une personnalité. C'est pourquoi j'évoque graphologie. Chacun de vous écrit d'une manière différente. Je crois que la manière, enfin après moi, que Bertrand conçoit son image plastique permet cette intégration, parce que c'est une démarche de collage. Et dans un certain sens, chacun d'entre vous, par votre écriture, apporte un élément de collage qui s'intègre dans l'ensemble du collage. Mais lorsqu'on travaille avec quelqu'un qui crée un espace plus physique, en dimension, c'est-à-dire d'ici jusqu'au fin fond de l'univers, dans le meilleur sens, si on réussit ça, comme chez Léonard de Vinci, comment intégrer cette écriture pour que ça colle? Ça, c'est le problème.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques dans le public, ou est-ce que l'un de nos écrivains souhaite apporter un élément à cette remarque? Marc Lebotte.
Oui, pour répondre un tout petit peu à ce qui vient d'être dit, moi, ce qui m'a frappé en vous écoutant, c'est que les poètes aujourd'hui, les poètes que j'aime, les poètes qui sont mes contemporains, disons les poètes modernes, sont des poètes qui ont rompu ou qui sont passés à autre chose qu'à la poésie continue, descriptive, rhétorique, dont je ne dis aucun mal en disant cela, mais enfin qui est une poésie correspondant, disons, à la pensée classique, et qu'aujourd'hui, les poètes procèdent souvent par éclat, par pensée dispersée, par pensée rompue. Et en écoutant vos propos, je pensais, en écoutant surtout ce que disait Michel Butor et Bernard, sur l'espace qui est créé par le peintre, l'artiste Bertrand Dorny, ce qui m'a frappé quand j'ai eu l'occasion, en effet, de connaître son œuvre et de collaborer un peu avec lui, c'est que lui aussi, dans ses images, produit des espaces rompus, multiples et très vivement colorés. Et on a affaire ici à une pensée artistique qui est une pensée où ce qui donne la direction, la multiplicité des directions dans l'espace, ce sont des intensités colorées, et je trouve qu'il y a une modernité équivalente, une actualité un petit peu équivalente dans cette façon de produire un espace où le poème va s'inscrire, qui est un espace dont multidirectionnel est très intense à cause de ses couleurs. Et puis, les poètes auxquels tu as fait appel.
Je dirais que le livre le moins coloré que j'ai fait, je l'ai fait avec toi, Histoire du gris.
Micro.
Oui, l'histoire du gris, d'accord, mais tu sais bien, on en a parlé une fois, ce que je t'ai dit, c'est que les peintres du XXe siècle, l'affaire n'est pas récente, elle date du début du siècle, je pense qu'elle date de Matisse, c'est que les peintres aujourd'hui ont remis violemment en lumière le fait que le noir est une couleur. Le noir et le blanc sont des couleurs, ils fonctionnent comme des couleurs pour l'œil, et par conséquent, on n'est pas ici l'histoire du gris, si tu veux, ça n'est pas l'histoire de la grisaille comme on l'a pratiquée à l'âge classique dans les camailleux, hein, qui étaient souvent des camailleux en grisaille ou des camailleux bleus. Le blanc et le noir, avec leur tiers terme qui est le gris, moi me paraissent être de l'ordre de la même intensité colorée que le rouge, le vert ou que les papiers fluorescent que tu...
Oui, non, mais j'ai toujours pensé, moi. Ça, c'est sûr. Hein. Merci.
Alors, je vais me retourner peut-être vers Bertrand pour lui demander si la chose est infinie. Quels sont les prochains livres? Est-ce que les personnes qui sont ici à cette table ont déjà reçu de nouvelles propositions?
J'aimerais, oui. Après ce débat, j'aimerais continuer. La relation entre, qui avait été abordée tout à l'heure, avec le temps, l'espace-temps et l'espace créatif et l'évolution que chacun de nous porte avec le, l'histoire du sablier renversé. Il faut continuer. Moi, je suis tout à fait disponible s'ils veulent bien continuer.
Et du côté des écrivains, est-ce qu'on peut parler d'une lassitude une fois qu'on a joué une fois ou deux fois? Ou est-ce qu'il y a à nouveau envie?
C'est un interrogatoire. Non, moi,
nous avons dû jouer 50 fois, au moins, maintenant. Oui. Et je suis tout prêt à arriver jusqu'à la centaine. C'est une question de temps, c'est tout.
Bernard Noël, vous êtes partant également?
Oui, bien sûr. Nous avons fait des fleurs, nous avons fait des plaquettes, nous avons fait, je ne sais pas, des non, c'est vrai que le problème abordé tout à l'heure, enfin, je ne sais pas quoi y répondre. C'est une chose qui m'intrigue. En effet, je crois qu'il est impossible que le dessin et l'écriture coexistent dans le même espace. Mais c'est avec le rêve de les faire coexister. J'imaginais que l'ordinateur cher à Michel pourrait peut-être concilier les deux.
Je pense que l'écriture et le dessin le plus classique peuvent très bien coexister dans des espaces qui sont naturellement des espaces complexes. Parce que là, on parle de on fait des références à l'écriture chinoise, par exemple. Et là, l'écriture chinoise, il faut bien comprendre que la perception que nous en avons est en général une perception qui est aplatie à l'occidental, alors qu'en réalité, un caractère chinois est un ensemble de traits dans lequel l'ordre des traits joue un rôle essentiel et que par conséquent, la notion de la troisième dimension est quelque chose d'absolument essentiel. C'est quelque chose qui est dans l'espace. Mais surtout, dans la peinture occidentale et dans l'art occidental en général, la présence de l'écriture est absolument essentielle. Et nous trouvons ça chez les plus grands peintres, les plus classiques. C'est le mur que l'enseignement occidental, à un certain moment, a mis entre la peinture d'une part, la littérature d'autre part, pour des raisons sur lesquelles nous n'avons absolument pas le temps de nous interroger. C'est à cause de cela que nous sommes devenus aveugles à des phénomènes extraordinairement importants de l'écriture à l'intérieur de la peinture. Vous n'avez qu'à aller au musée du Louvre. Bon, regardez, par exemple, le portrait des sœurs Arnaud par Philippe de Champaigne. Alors, bon, vous voyez à quel point l'écriture est là dans cette peinture réaliste, et ainsi de suite. Donc, je pourrais... Bon, j'ai étudié ce problème à une certaine époque, oui. Mais oui, bien sûr. Mais oui, mais... Mais je peux en citer d'innombrables. Je peux en citer d'innombrables sur lesquels nous voyons des gens qui sont en train d'écrire des lettres, nous voyons des lettres qui sont sur les tableaux. Enfin, mais par exemple, mais oui, mais bon, ceci dit, mais oui, mais c'est entendu parce que toi, tu dessines d'une certaine façon et chaque artiste dessine d'une autre façon et a une relation à l'espace qui est différente. Et par conséquent, si nous travaillons avec des artistes différents, nous nous trouvons devant des problèmes plastiques différents. Et c'est absolument passionnant parce que ça nous fait faire des choses différentes. Hein? Je n'écris pas du tout les mêmes textes pour Grégory Mazurowski, pour James Guittet ou pour Bertrand Dorny. Chaque fois, c'est une aventure qui est profondément différente. Et c'est cette différence essentielle qui est tellement, tellement fondamentale. Et c'est pour ça qu'il est si difficile, ensuite, de faire sortir le texte de cette collaboration, parce qu'il lui manque alors quelque chose d'essentiel. Mais il faut aussi... On fait tout ce qu'on peut pour que ce soit presque impossible de séparer les choses. Mais une fois que c'est fait, on a absolument besoin de trouver un moyen de donner une autre existence encore, de les mettre dans des recueils comme les... comme fait Michel Deguy et comme nous faisons tous au bout d'un certain temps. Mais nous avons besoin souvent d'un travail énorme de reprise, de remise en relation avec d'autres choses avant que ce soit possible d'une façon vraiment intéressante.
Alors Bertrand Dorny me dit qu'il faut repasser absolument la parole à Michel Deguy. Alors peut-être que c'est pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que vous continuez l'aventure avec Bertrand Dorny? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir un nouveau livre?
J'étais dans la discussion. Oui, quant à ce point, la simple affirmation vaut. Oui. Mais non, je voulais simplement ajouter quelque chose. Enfin, ajouter, signaler que la discussion commence et par conséquent il est temps de se séparer puisque c'est vrai, on est victime d'homonymie auxquelles il faut faire très attention. D'abord, c'est pourquoi parler d'écriture sans distinguer à chaque fois soigneusement s'il s'agit de graphisme ou d'articulation signifiant, c'est-à-dire au fond d'une séquence langagière, déjà ça oscille, on ne sait pas de quelle écriture, et j'irais plutôt dans votre sens, c'est-à-dire de même avec espace, le mot est évident qu'entre l'espace blanc plat, comme on l'a dit, et sur lequel l'écrivain, c'est-à-dire finalement le penseur parleur, parce que est pris par la signification et dans le sens, n'est pas dès la posture initiale, même s'il s'agit d'un rectangle, n'est pas le même espace avec lequel le peintre a affaire, qui se promène dessus comme Pollock ou Soulage, ou qu'il est devant lui. Je veux dire, mais là, il y a des homonymies qui sont extrêmement fortes. Alors ça commencerait à discuter.
Est-ce qu'on demande à Yves Perret s'il est prêt à continuer également, puisqu'il est le...
Non, je pense que il y a une seule chose à dire, c'est que je ne suis pas sûr que ce qui a été dit tout à l'heure d'une opposition terriblement tranchée au sein d'un même espace du dessin ou de la forme, quelle qu'elle soit, plastique, et de l'écriture, qu'il y aurait une espèce de qu'elle se repousserait l'une l'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même toute une tradition de grandeur à différentes époques, à différents siècles, même avant l'imprimerie, bien sûr. Et depuis que l'imprimerie existe, il y a beaucoup d'exemples. Il y a aussi, pour s'en tenir à un moment prestigieux, c'est-à-dire depuis la fin du dernier siècle, il y a quand même dans différentes aires géographiques, en Russie, en Italie, en Allemagne, en France, bien sûr, il y a eu quand même des exemples de réussite tout à fait importantes, au fond, d'alliance entre ces deux formes de création. Et pour m'en tenir presque, au fond, à un seul livre, je ne sais pas si tout le monde ici connaît le livre de Sandrard et de Fernand Léger, La fin du monde filmée par l'ange Notre-Dame. On ne peut pas dénier, au fond, qu'il y ait des réussites superbes. Et au fond, juste quant aux deux formes, c'est-à-dire l'acte d'écriture changé par la typo de l'époque, et l'acte de peindre ou de graver, et le résultat des deux. Il y a vraiment une adéquation, parfois troublante même. Ce que je pense, le vrai problème, je ne le verrai pas là. Je ne le verrai pas dans le problème de l'impossibilité d'adéquation. Je verrais plutôt dans le problème de l'épuisement des formes, une fois qu'une forme est donnée, et dans la nécessité, à chaque moment où l'on se trouve, puisque nous sommes dans un moment, ici nous sommes en 95, non pas parce qu'on le voudrait, non pas parce qu'on voudrait faire quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais fait, de toute façon on ne le ferait pas, on ne ferait que répéter, on répéterait peut-être des livres de l'époque carolingienne, ou au fond des livres de l'époque futuriste, ou des livres de l'époque constructiviste, enfin peu importe ce qu'on répéterait, du reste on répéterait sûrement beaucoup de choses, mais je crois qu'on a besoin au fond de sentir un élan, parce que si on participe à quelque chose, soit seul, nous en écrivant, Bertrand en par des collages, on a besoin d'un élan, et lorsqu'on est deux, on a aussi besoin d'un élan. Donc je ne crois pas tellement qu'il y ait une incompatibilité réelle entre deux formes d'expression. Je crois qu'il y a un besoin de sentir les formes brisées, de briser les formes convenues, d'entrer dans des formes nouvelles à chaque moment, chaque fois nouvelles, toujours redites, mais chaque fois nouvelles. Et à ce moment-là, l'élan dont je parle, qui est partagé,
qui n'est plus un élan tout seul, c'est un peu paradoxal, parce qu'au fond, les créateurs aiment bien être tout seuls. Ils aiment bien, par sympathie les uns vis-à-vis des autres, se retrouver, parce qu'ils ont du plaisir à cela aussi. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas réellement d'objection. Moi, je me trouve en ce moment devant un certain nombre de livres qu'on m'a demandé de faire avec des amis peintres, et au fond, on repousse d'une part parce qu'on n'a pas le temps, ce type de livre demande beaucoup de temps, et aussi parce qu'on veut être juste par rapport à nous-mêmes, l'un et l'autre, ou par rapport au temps, et ne pas refaire, ce qui ça ne nous intéresse pas de refaire, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est ça la question. La question, c'est peut-être celle-ci. Je ne crois pas qu'il y ait incompatibilité. On a beaucoup de plaisir entre écrivains et au fond créateurs de formes à se retrouver. Oui, c'est toujours un moment d'étonnement, du reste, que ça puisse fonctionner. Donc ce plaisir-là, on est heureux de l'avoir, mais il faut le trouver à travers des formes qu'on suppose très très naïvement inédites. Alors qu'on ne fera certainement que répéter quelque chose, qu'on a soi-même vu, oublié, que l'autre a vu, qu'il a oublié aussi.
C'est aussi simple que ça. Je suis tout à fait pour l'enthousiasme et la créativité qui peut être inspirée par une collaboration, une rencontre de deux sensibilités. Je répondais uniquement à cet aspect de distinguer, écrire et dessiner. C'est tout. Et souvent, quand on évoque des tableaux existants, ou existent évidemment les mots dans la peinture ou dans le dessin, si je ne me trompe pas, c'est souvent la main de l'artiste qui a aussi tracé des lettres. Ce n'est pas deux mains différentes. Et c'est ça qui joue. C'est comment réconcilier deux mains, qui veut dire deux présences, très fortes personnalités, qui coexistent. Ça, c'est mon problème quand je travaille avec Buteau. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche moins bien, ou peut-être pas. Mais non, ça, le risque de la rencontre.
Vous parlez de rencontre ou de réconciliation. Yves Perret parlait à l'instant de se retrouver. Je vais peut-être demander à Bertrand Dorny, quand même, en guise de conclusion de ce débat, de nous parler un tout petit peu d'amitié, parce que c'est peut-être...
Oui, mais naturellement, c'est un très grand plaisir toujours de partager ces espaces et ce temps. Mais comme dans toutes les amitiés, il y a deux facettes. C'est-à-dire... On ne sait jamais, sur les propositions qui sont faites de part et d'autre, en fait, et c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup faire ces livres, j'espère en refaire en beaucoup d'autres, c'est que, au fond, en réfléchissant, on ne sait jamais exactement, enfin moi je parle pour les textes qui me sont confiés, les textes poétiques, il y a toujours cette part de doute en fonction du dessin ou de la partie graphique que j'ai donnée, et je présume que l'écrivain ou le poète doit éprouver la même sensation, et cette de doute et de partie non évidente, très génératrice, je trouve, du processus de création en ce qui me concerne. Et je trouve que c'est un territoire très agréable où deux et deux ne font peut-être pas quatre. Et c'est peut-être ça la poésie en ce qui me concerne, avec les graphiques que je donne à mes amis poètes et qui sont d'une fidélité avec moi qui me touche beaucoup. C'est vrai, puisque vous me demandez. Au fond, moi, c'est une exposition, ça s'appelle Bertrand Dorny, mais en fait, je ne pourrais pas faire ces livres si c'était pas partagé avec d'autres personnes. Et ça, pour moi, c'est l'exposition de tous mes amis écrivains avec moi, mais c'est eux. Si j'ai besoin quand je fais un collage, par exemple, je le signe, c'est fini, je suis tout seul. Quand je fais un livre, au fond, je ne sais jamais complètement ce que pense l'autre. Et je trouve ça très, très enrichissant, parce que cet espace un peu de doute, mon Dieu, je le trouve... On peut mettre tout dedans, mais on peut mettre aussi toute la poésie. Et c'est parfait pour moi.